Bonjour, c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous. Décidément, je tourne en rond dans ce quartier toujours articulé autour de la rue Émile L'Écrivain. Et en descendant cette longue rue, disons vers le sud, la rue Raymond Vanier me fait signe de prendre à droite. Raymond Vanier, lui aussi pionnier, a joué un rôle essentiel dans le développement de l'aéropostale tout d'abord, puis et globalement dans celui du transport civil en général et du transport aérien du courrier postal. Raymond Vanier est né à Orléans le 6 août 1895 et comme beaucoup de jeunes de son âge lors de la déclaration de guerre, il laisse son emploi, lui c'est dans le commerce, pour devancer l'appel et essayer d'être incorporé dans l'aviation comme il en a toujours rêvé. Malheureusement, il échoue dans ses demandes et il est affecté dans l'artillerie au 13e régiment d'artillerie puis au 40e. Il est nommé brigadier en décembre 1915, puis maréchal des logis à Verdun en juin 1916. Dans ses carnets personnels, qui seront transcrits plus tard dans le journal d'un pilote de guerre, il donne avec précision un compte-rendu fidèle de ses missions et des opérations. Il explique avec minutie le travail des artilleurs, leur progression, leur retraite éventuelle, les modalités et les soucis du ravitaillement, l'importance du téléphone, la difficulté des liaisons et le travail de leur établissement lorsqu'elles étaient interrompues par les dégâts d'un bombardement. Il connaît les secteurs très exposés de l'Artois et de la Champagne, puis ceux de Verdun et de la Somme. Canonnier, il se fait parfois cavalier, mais aussi téléphoniste et même à l'occasion fantassin. Enfin, en 1917, il intègre l'aviation et rejoint la chasse après une formation de 5 mois à l'école de pilotage. À la fin de la guerre, il est crédité de 4 victoires dûment homologuées. Une fois passé dans l'aviation, il fait avec toujours autant de rigueur le récit de sa formation, ses relations avec les instructeurs, la description de ses vols tant pour l'observation des lieux, la progression des troupes au sol et des implantations de batteries antiaériennes, beaucoup de remarques et réflexions sur les sujets techniques qui sont assez souvent, il faut le dire, des soucis. C'est un véritable reportage sur le quotidien du pilote, bien sûr, mais aussi de l'ensemble de la famille de l'aviation. Il fait aussi un tableau assez inquiétant de l'état du matériel et des mécaniques, des difficultés de vol et de trop nombreux accidents, y compris celui des élèves, dans leur formation, dont il dit qu'il bousille beaucoup, je le cite, et malheureusement aussi beaucoup de morts. Il décrit minutieusement le combat aérien, insiste aussi beaucoup sur ses suites immédiates. Atterrir près de l'épave, recueillir les trophées, empêcher qu'elle ne soit désossée en quelques heures par les fantassins, aller voir l'équipage allemand à l'hôpital ou aller voir les corps des victimes, revenir surveiller le transport de l'appareil ennemi. À l'instar de plusieurs autres qui ont suivi le même itinéraire, lorsqu'il est démobilisé, 1919 le voit embauché le 3 juin chez la TECOR. Il convoie de nombreux Breguet 14 qui commencent à compléter d'abord, puis remplacer les Samson 2A2. Très rapidement, il fait montre de qualités précieuses et a très vite la pleine confiance de Didier Dora. Il est désigné comme chef d'escale à Malaga d'abord pour remplacer le même Dora appelé à Toulouse comme directeur de l'exploitation, puis en charge de l'escale de Barcelone. Ses interventions sont très nombreuses en dépannage de ses collègues en difficulté pour assumer la continuité du service du courrier, livrant des pièces de rechange pour les réparations sur place, le plus souvent avec des atterrissages périlleux en campagne. C'est une constante dans sa carrière de l'aéropostale. Quel que soit son poste et sa fonction, il aura toujours à cœur de s'impliquer totalement dans ses opérations en étant le plus souvent aux commandes d'un avion pour être partout où une intervention et une décision rapide est nécessaire. En 1927, il est affecté en Amérique du Sud où, toujours fidèle et dévoué à Didier Dora, son rôle sera essentiel comme celui de quelques autres dont le nom n'a pas assez bien retraversé l'Atlantique pour leur faire justice. Toujours dans son emploi de dépanneur redresseur de situation après contretemps ou accident, il accumule les vols et les durées de vol. Sa participation à la première liaison entièrement aérienne entre la France et l'Amérique du Sud, commencée à Toulouse, puis relayée avec la traversée épique du LAT-28 Comte de Lavaux, pilotée par Jean Mermoz entre Saint-Louis et Natal, il a pris en charge le courrier avec un Breguet 14, avec son mécanicien Lièvre, puis change d'avion à l'escale de Victoria, où le radio d'Invigan Chagas le rejoint dans cette fois un Laté 26. Une météo épouvantable va les accompagner avec des turbulences énormes et une pluie diluvienne. À certains moments, Valnier et Chagas sortiront la tête par des petites fenêtres pour essayer de voir devant eux tellement la visibilité était nulle. Et à l'approche de Rio, lorsque leur radio signifiera que la piste de Campo de Afonsos est impraticable, il fera celui qui n'a pas bien entendu et se posera malgré tout, et, a-t-on dit alors, avec maestria. Il n'était pas question de retarder l'arrivée de ce courrier historique. Et, le croirait-on, Vanier était déçu car, posé à 00h30, il avait perdu son pari puisqu'on était le 14 mai et non le 13 comme il le voulait. Il semblerait malgré tout que, pour tout arranger, le courrier ait été oblitéré à l'arrivée du 13. Lorsque notre homme a enfin pu se reposer et aller se coucher, il pourra décompter qu'il vient de voler pendant 37 heures et 20 minutes sans un instant de repos. On n'aura pu chiffrer que dans sa carrière, il a pu effectuer avec succès 171 dépannages. Plus tard, des lignes Latécoère, puis de la compagnie Aéropostale, Raymond Vanier se retrouvera, comme certains de ses collègues, incorporé dans la nouvelle compagnie Air France. Ensuite, ça sera la compagnie Air Bleu, avec les vols de nuit sur les caudrons 449 goélands. Puis, en 1945, il sera un acteur efficace et expérimenté pour le développement du transport aérien postal en France. Il mettra cette même expérience pour la mise en œuvre de nouvelles techniques de pilotage et notamment pour le vol de nuit, qui est bien sûr une obligation incontournable pour l'efficacité et la rapidité de la circulation du courrier. En 1959, il prend sa retraite après une carrière de 42 ans dans l'aviation. La maladie l'emportera le 15 août 1965. Il était commandeur de la Légion d'honneur et il est enterré à Paris au cimetière du Père-Lachaise. Ces carnets sont conservés aux archives municipales de Toulouse et ont servi de base à l'ouvrage « Journal d'un pilote de guerre ». Et son livre au titre parlant « Tout pour la ligne » est un remarquable récit de l'épopée. Ses écrits en font un témoin exceptionnel de cette riche période de développement de l'aérien. Pour les passionnés et les collectionneurs, plusieurs timbres le mettent en évidence, dont un face à Didier Dorat. Une médaille a également été frappée à son effigie.
À la semaine prochaine donc pour d'autres avions et d'autres hommes.